Un beau bonjour, monsieur, madame. Nous sommes vendredi le 3 janvier 2020. J'en suis à ma dernière émission. Ben, je vais sûrement revenir éventuellement sur les ondes de cette radio. Mais Isabelle sera de retour à compter de lundi. Alors peut-être que chez vous, comme chez nous, la vie reprend tranquillement son cours normal malgré des événements à l'international qui sont relativement troublants. Alors au menu ce matin, une belle émission. À 11h30, à l'entrevue sans filtre, nous recevons la chanteuse Ima. Ima va nous parler de ses projets pour 2020. D'ailleurs, le chiffre 20 va avoir une belle dimension dans sa prochaine année, Ima, parce qu'elle fête aussi ses 20 ans de carrière en 2020. Alors, pour elle, beaucoup de musique et aussi, surtout, beaucoup de yoga. Ima, pour elle, 2019, je pense, a été une année d'introspection. On va parler de ça avec elle. D'ailleurs, l'émission d'aujourd'hui va être teintée par l'introspection et par la remise en forme, tant sur le point physique que moral. On va aussi parler du cancer ce matin, mais d'une façon positive. On voulait savoir, à l'aube d'une nouvelle décennie, on en était où dans les traitements contre le cancer, bien qu'encore trop répandu, le cancer n'est plus le tueur qu'il était. On en est où dans les recherches? Parler aussi de ces nouvelles technologies qui font de petits miracles. Alors, on va faire ça en compagnie du docteur et chercheur Régent Lapointe vers 10h30 ce matin. Donc, en ce début d'année, tout le monde, ou à peu près tout le monde, on a envie d'améliorer des choses dans notre façon de vivre. On veut se prendre en main. Au point de vue physique notamment, on a toujours un désir de remise en forme quand une nouvelle année commence. Alors, on aura pour vous des astuces de remise en forme vers 11h ce matin, en compagnie de Karine Larose, kinésiologue, et on va aussi rejoindre en Australie José Lavigueur, qui est la référence en remise en forme chez nous au Québec. José fuit les feux, littéralement. Elle a publié ce matin sur sa page Facebook des photos de ce qui se passe à Sydney, en Australie. C'est épouvantable. Elle est dans un terrain de camping actuellement. On va la rejoindre en pleine nuit là-bas. Elle va nous parler de la situation en Australie, mais aussi un peu de remise en forme. Donc, on s'occupe de votre santé physique et aussi de votre santé mentale ce matin.
Le mental. Mental toughness. La dureté du mental. Puis ici, présentement, il y en a pas mal plus qu'on pense du mental.
Je pense que ça fait au moins une quinzaine de fois que je revois ou j'entends cet extrait des Boys avec Marc Messier et à chaque fois, ça me fait autant rire. Alors, la santé mentale, c'est l'un des enjeux de santé publique de 2020. L'atteinte de l'équilibre et travailler sur sa santé mentale et l'accepter aussi, sa santé mentale. On va parler de vie personnelle, de remise en question dans le couple, dans la vie personnelle en compagnie de José Leboeuf qu'on retrouve qui est avec nous il y a quelques jours à peine. Bonjour, José Leboeuf.
Bonjour, Marielle.
Alors, José est sexologue, clinicienne et aussi psychothérapeute. Plusieurs enjeux dans les... Je ne vais pas employer le terme problème de santé mentale parce que souvent, on en fait un combat, mais il y a un désir d'équilibre de plus en plus fondamental chez l'humain, José.
On en tient compte de plus en plus. On comprend que le corps, c'est pas tout. Hein? Ce qui se passe entre nos deux oreilles, c'est important. Et c'est souvent à la base de tout. Moi, comme sexologue, je travaille, bien sûr, notamment avec les problématiques sexuelles, mais ça ratisse plus large que ça. Hein? On dit souvent un peu à la blague qu'on travaille pas avec des organes génitaux, mais avec des êtres humains. Donc, c'est certain que même dans les dysfonctions sexuelles, il y a des enjeux de santé mentale à évaluer. Ou à faire évaluer par d'autres professionnels, là, le cas échéant, qu'on pense à la dépression, par exemple.
Et on a un peu de difficulté à accepter l'état dans lequel on est. On est toujours à la recherche de mieux, de plus.
De plus beau.
Exactement. Je pense à Penelope McQuaid là, qui vient de publier sur sa page Facebook un texte littéralement déchirant, mais aussi plein de lumière sur ses épisodes dépressifs. Elle en parle avec grande sincérité, beaucoup de sensibilité, et ça rejoint énormément de gens parce que ça arrive à tout le monde d'avoir un épisode de déprime ou de dépression, puis on n'accepte plus ça dans nos vies.
Oui, c'est ça. Ben, on est beaucoup axé sur, vous l'avez dit, le mieux, le plus, le plus fort. Faut toujours être positif, faut que ça aille bien, faut que les choses pétillent. Tu sais, on est beaucoup dans un discours comme ça. Fait quand une personne se sent en souffrance,
vulnérable,
fragilisée, ces personnes-là, souvent, ben, en thérapie, quand on les accueille, vont dire « j'ai pas toujours l'écoute, t'sais, j'ai pas toujours autour de moi, dans mon entourage, quelqu'un à qui je peux confier ça sans être jugé. » Parce que souvent, hein, ce qu'on va dire, c'est « ben voyons, mets-toi un sourire dans le visage, ça va passer, ouais, relève-toi. » Mais c'est pas simple
comme
ça.
Les gens ont encore l'impression, on tente de démystifier depuis des années, ouais, les problèmes de santé mentale, mais les gens ont encore cette impression ou cette espèce de phrase qui nous suit. « Hey, prends-toi en main. »
C'est de la faiblesse.
« Va dehors, prends l'air, bouge un peu, ça va t'aider. »
Tout à fait. Ça, c'est des petites passades de, ouais, déprime, là, une fois de temps en temps, qui durent quelques heures, quelques jours, parce qu'on vient de vivre un petit truc, c'est une chose. Mais les troubles dépressifs, c'est pas ma première compétence, ça, c'est plus de l'ordre de la psychologie, de la psychiatrie, ben de, oui, la médecine. Ouais. Mais reste que ça fait partie, là, des problématiques qu'il faut prendre au sérieux. Okay. Comme sexologue, moi, ce que j'observe souvent, c'est des personnes qui viennent consulter pour des problématiques au niveau du désir sexuel. Tu sais, le désir qui disparaît. Mais souvent derrière
c'est
ça.
C'est souvent le premier symptôme.
Ben, ça peut être un des premiers symptômes, entre autres, ouais, d'un état dépressif. C'est, je suis pas en train de dire que c'est toujours lié à la dépression, mais il y a des situations où la personne va consulter pour des problèmes de désir, où le couple s'amène en thérapie en disant, voyons, je sais pas ce qui se passe, on fait plus l'amour, mon ou ma partenaire veut plus qu'on se rejoigne sexuellement, mais on se rend compte que peut-être parfois il y a une personne
quand on gratte un peu
puis qu'on évalue, ouais, le portrait au complet, on se rend compte des fois qu'il y a des problématiques de santé mentale plus profondes derrière ça qui nécessitent une évaluation le plus poussée à ce moment-là pour être certain de pas échapper là des composantes essentiel.
Et José, je me trompe pas en disant que l'humain se met tellement de pression de performance aujourd'hui.
C'est vrai.
On n'accepte rien, on n'accepte pas la défaite, on n'accepte pas, mmh, la faiblesse.
Tout à fait. Puis, ouais, au niveau sexuel non plus.
Au niveau sexuel, c'est vrai, il y a toujours un enjeu. Ouais.
C'est toujours lié au niveau sexuel. Là, je dis tout le temps à mes clients, on fait l'amour comme on vit. Là, donc, les gens qui sont axés sur la performance, toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus fort, faut toujours que ça soit parfait. C'est sûr que quand on frappe des écueils au niveau de notre vie sexuelle, que les choses se passent pas exactement comme avant, que ce soit à cause de justement d'une période de fragilité, de vulnérabilité, le vieillissement, la maladie, la fatigue, le stress, quand tout ça nous frappe, c'est sûr que sexuellement, ça change des choses et les gens se laissent peu de place à l'imperfection, entre guillemets.
Ouais. Quand on prend... Le mot résolution commence à être un peu banni du vocabulaire,
oui,
parce
qu'on n'aime pas ça.
Non, mais c'est parce qu'il donne, il met comme un peu une pression, là,
oui,
déjà, comme si on en avait besoin, là. Mais quand même, la réflexion sur ce qu'on voudrait changer dans notre, mm-hmm, quotidien pour améliorer notre vie, elle est essentielle à l'humain, tu sais, l'espèce de prise de conscience, oui, sans que ce soit une grande remise en question. Mais il y a beaucoup de gens qui vont faire le choix de travailler sur leur couple.
Oui, moi, je l'observe dans mon bureau. Il y a des périodes, je dirais, c'est pas limité au début de l'année, là, au mois de janvier. Je dirais que la rentrée scolaire, là, septembre aussi, il y a comme un mouvement de renouveau. Là, on s'inscrit à des cours, on se remet en forme. Ou, ouais, il y a la rentrée, puis il y a la nouvelle année. Puis c'est des périodes où les gens, en tout cas dans mon bureau, consultent un peu plus, font des demandes d'aide, parce qu'il y a cette volonté-là d'améliorer des choses. Je parlais du plan sexuel tantôt, mais plus large que ça, au niveau de leur couple, au niveau de la communication, de la gestion des conflits. Les gens qui se remettent en question aussi dans leur situation conjugale, et ce, même s'ils consultent seuls, c'est-à-dire de se dire, bon, là, ça fait tant d'années qu'on est ensemble, moi et mon conjoint, ma conjointe, je suis plus certaine d'être au bon endroit, je sais plus comme avant... J'ai le goût de réfléchir à est-ce que j'ai encore envie de vivre cette vie-là? Donc, toutes sortes de réflexions. Ouais. Et la différence entre quand les gens sont chez eux tout seuls dans leur salon et dans un bureau comme le mien, c'est que la résolution devient un objectif thérapeutique.
Oui, parce que...
Là, c'est plus concret.
Ben oui,
là.
Mais on y va pour une raison.
Tout
là.
À fait.
On veut
et
trouver
on paye
des
quelqu'un,
solutions,
on,
ouais,
prend du temps, de l'énergie dans notre horaire, tu sais, très chargé. On a tous des horaires bien remplis pour aller réfléchir. Donc, c'est plus... On dirait que ça assoit... C'est ce qu'on appelle les résolutions dans quelque chose de plus sérieux. T'sais.
José, il y a une espèce de perception que quand on se rend dans le bureau, que ce soit d'une sexologue, d'une psychologue ou d'un autre, mm-hmm, intervenant pour essayer de s'aider, il est comme un peu déjà trop tard.
Marianne,
est-ce qu'on devrait faire de la prévention de ça?
C'est un très bon point. Il y a des gens qui entrent dans mon bureau trop tard. Il y en a et ça va sur des couples et des individus qui réfléchissent à toutes sortes de choses, mais je dirais plus en couple parce que les couples souvent j'ai malheureusement pas la source en tête, mais j'avais lu quelque chose là qu'un psychologue avait écrit un moment donné qui disait qu'il y avait un certain pourcentage de la clientèle qui se présentait en thérapie, puis c'était vraiment comme le coup de la dernière chance, mais ça fait déjà des années que ça va mal. Donc on n'est pas, c'est pas un département des miracles, hein, les bureaux de psychologues ou de sexologues ou tout autre intervenant. On vient, je dirais, mettre sur la table, mettre en lumière des enjeux qui sont déjà là et que tout seul dans notre salon, des fois, on essaie de cacher en dessous du tapis en se disant, si on n'en parle pas, ça paraît pas trop, puis on continue la petite routine du quotidien, puis tout a l'air normal. Mais dans un bureau de psy, là, on se fait poser des questions. T'sais, on ouvre les dossiers, on dissèque le problème, et là on n'a pas le choix d'y faire face. T'sais, au lieu de mettre un bandage sur la tumeur, là, ben on l'ouvre puis on essaie d'aller l'enlever.
Ouais,
là.
C'est ça.
Donc et des fois il est trop tard. Moi j'essaie d'utiliser beaucoup d'images punchées, là, des métaphores dans mon bureau. Puis je dis souvent à mes clients, je dis il y a des gens des fois qui arrivent ici, les valises sont déjà faites sur le bord de la porte chez eux. Il y en a qui ont déjà commencé à regarder pour acheter un condo tout seul ou à se louer un nouvel appartement. Parce qu'ils savent qu'ils vont partir, mais ils se ramassent en thérapie pareil en se disant il y a peut-être une dernière chance.
Il y a peut-être encore quelque chose. Ouais.
Je dis pas que c'est impossible rendu là, mais disons que.
Quels devraient être les premiers signes pour qu'un couple décide soit de consulter ou du moins d'en parler?
Ben les premiers signaux, je pense que tout le monde les a à l'intérieur d'eux.
Sexualité qui s'éteint, c'est
la sexualité qui s'éteint, c'est souvent un symptôme de quelque chose, pas toujours un symptôme d'une perte d'amour, du sentiment, parce que je tiens à dire qu'il y a des gens qui vivent une certaine abstinence sexuelle jusqu'à un certain point et qui ne remettent pas en question leur vie amoureuse, pardon, ou leur vie conjugale, qui sont très bien là-dedans, parce que ça fait l'affaire des deux. Je dirais plutôt que c'est le déséquilibre entre les deux. Quand il y a quelqu'un dans un couple qui dit hey, « moi, le sexe, là, je veux plus rien savoir de ça, ça me tente plus », puis que l'autre veut encore, là, s'installe un déséquilibre, puis là, ben ils consultent 6 mois, 1 an plus tard parce qu'ils ont vécu une crise d'infidélité, par exemple.
José, tu parlais de communication tout à l'heure. On va reparler de ça après la pause, parce que dans une ère où les outils de communication sont hyper nombreux, on n'arrive plus à se parler.
C'est tout à fait vrai.
Le problème de communication est à l'origine de bien des problèmes, qu'on soit en couple ou célibataire. On en reparle au retour. Alors, est-ce que vous avez eu à faire au cours de l'année 2019 des remises en question, que ce soit sur votre couple ou votre vie personnelle? Peut-être que votre témoignage pourrait en aider d'autres ce matin. Alors, on attend vos appels, le 514-790-9850, le 1-866-790-9850. Est-ce que vous entendez, ce que vous entendez ce matin vous parle? Alors, il est question, bien sûr, du couple, mais aussi de l'humain. Parce que il y a sûrement des célibataires aussi qui te consultent, José.
Ah oui, tout à fait.
Et je parlais avant la pause d'un problème de société, puis je dis qu'il est en vigueur aujourd'hui, mais c'était le cas aussi il y a 10 ou 15 ans. Mon Dieu, qu'on a de la misère à communiquer.
C'est vrai. Avant la pause, Marie-Hélène, tu disais on a de la misère à se parler. Moi, j'ai envie d'ajouter on a de la misère à s'entendre puis à s'écouter. Les gens parlent, les gens sont capables, je pense, de s'exprimer peut-être plus que jamais. On le voit avec les médias sociaux. Les gens s'expriment, mais est-ce qu'on est ouvert et disponible à entendre?
Ouais, mais et est-ce qu'on s'exprime sur les vrais enjeux?
C'est un autre affaire.
Sur les réseaux sociaux, on est souvent beau, parfait, heureux et tout, alors que
tout est parfait,
quand on gratte un peu, tout ne l'est pas nécessairement.
C'est vrai.
Comment on peut arriver à régler cette problématique de la mauvaise communication?
Ben, tu sais, quand on travaille en thérapie, ce qui est intéressant, c'est qu'on est le couple, par exemple, est devant une tierce personne qui agit un peu à titre de médiateur. Donc, à ce moment-là, on va apprendre des nouvelles techniques. T'sais, on va leur enseigner des nouvelles techniques de temps. Prenez chacun votre tour. Écoutez-vous. Reflétez ce que l'autre vient de vous dire. Il y a des techniques de communication qui existent. C'est pas moi qui ai inventé ça. Qu'on peut apprendre pour que chacun ait l'espace, la place et le temps de dire ce qu'il a à dire
et
s'assurer. Pas se braquer.
Oui, c'est ça. Hein?
D'entendre. T'sais, c'est un peu la bonne communication. C'est comme si je disais, selon moi, voici ce que je pense, tout en acceptant que pour toi, ça puisse être différent et je m'intéresse à ce que toi, t'as à me dire. Donc, il y a un espace un espace pour l'opinion ou la vision des choses de chaque personne. Alors que quand on est dans la bonne vieille communication, pas trop réfléchie, on fait beaucoup de « oui, mais moi ». Oui, mais moi, je souffre bien plus que toi. Oui, mais moi, c'est important que je te dise telle chose. Oui, mais moi, on fait beaucoup de « oui, mais moi ». qui dénote aucune écoute de ce que l'autre a à nous dire. Donc, si on veut régler nos conflits, il faut être capable de s'asseoir calmement, avec maturité, puis entendre ce que l'autre dit.
Mais là, et là sortir du « je me moi », ça s'applique dans toutes les sphères
dans
de la
toutes
vie.
Les sphères
c'est
de
assez
la
bénéfique
vie.
Aussi au travail et dans ses relations sociales partout.
Partout.
Bon, je peux pas t'avoir avec moi, Josée, sans parler de notre vision de la sexualité qui change
qui
beaucoup.
Qui change
là.
Beaucoup.
Dans la dernière décennie, c'est incroyable, comment notre perception de la sexualité a changé. Puis je pense que ça va être omniprésent aussi dans la décennie qui s'en vient.
Encore plus, oui. On a entendu parler récemment là, de toutes les nouvelles technologies, la robotique, la domotique et tout ça là, au niveau de la sexualité.
Ouais.
Il y a des articles qui ont été écrits là-dessus. C'est hors sujet pour le moment, mais je reviendrai une autre fois.
Ben oui, sûrement. Oui, t'en seras pas ta première visite chez nous. Alors, ça nous fait revoir toutes les balises du couple.
Tout à fait. Moi, ce que j'observe beaucoup là, depuis les dernières 10 ans environ, cela dit, je vais célébrer mes 25 ans de pratique
en
bureau
2020,
privé
wow.
en 2020. C'est quand même, ça me rajeunit pas, mais j'en suis quand même très fière. Et depuis une dizaine d'années, je dirais, ce que j'ai observé beaucoup, c'est des couples qui viennent consulter pour discuter de toute la notion de non-exclusivité sexuelle, la non-monogamie, le couple ouvert, la liberté sexuelle, appelons ça comme on veut, mais de se dire, on n'est pas toujours d'accord sexuellement, un a plus de désir que l'autre, on a des envies ailleurs parfois, mais la société, les conventions sociales nous ont toujours dit que quand on est en couple, c'est tu es le seul dans ma vie, je suis la seule dans ta vie, puis qu'on peut pas du tout imaginer flirter ou faire quoi que ce soit ailleurs, et les couples remettent ça en question. Il y a des chiffres, j'ai pas malheureusement les chiffres exacts en tête là, mais autour de 25 à 30 % des couples disent avoir vécu à un moment donné de leur vie une crise d'infidélité. OK, soit avoir trompé eux-mêmes.
Toi-même, t'appelles ça une crise.
Ben, c'est une crise. Oh oui, parce que c'est un
trauma.
Ça
devient une crise.
C'est un trauma dans un couple. C'est un trauma dans un couple. Un couple dit monogame, exclusif, fermé. Donc, on prend pour acquis que ça n'arrivera jamais. On se dit, mon conjoint, ma conjointe, m'est totalement fidèle. Et là, bam, on entend ou on apprend des fois de façon très brutale que l'autre nous a trompés. Donc, quand je parle de crise d'infidélité, c'est soit qu'on a trompé nous-mêmes puis qu'on pensait jamais vivre ça ou faire ça, soit qu'on a été trompé ou on a été la personne avec qui une autre personne en couple a trompé son conjoint. Donc, on fait partie du trio et ça remet les choses en question. Et à cause de ça, il y a beaucoup de gens qui ont vécu ça, qui viennent consulter pour se dire « Attends une minute, là, le couple ouvert existe. On peut-tu se donner une liberté sexuelle? Est-ce qu'on peut revoir ce que j'appelle les balises de notre relation? Jusqu'où on peut aller à l'extérieur du couple et que ce soit acceptable pour les deux? » Ça, là, il y a 20 ans, là, c'était extraterrestre là, quand ça arrivait dans mon bureau, ces situations-là. Maintenant, à chaque semaine, j'ai des gens qui pensent à ça, qui réfléchissent.
Est-ce que quand les gens vont te consulter pour ça, il y a un accord commun de la part des deux?
Pas toujours. Pas toujours. Parce que je te dirais que les gens qui ont déjà, en partant, des accords communs sont moins souvent dans un bureau de thérapeute à essayer de démêler des choses. Ils s'entendent. Au même titre que deux personnes qui voudraient vivre un couple abstinent sans sexualité, ben, ils n'en ont pas de problème. Ils ne viendront pas consulter.
Mais, Josée, moi, j'ai l'impression que même chez les 20-30 ans, là, qui ont une vision de la sexualité beaucoup moins conservatrice que la nôtre, là, je pense que même chez les jeunes, la notion de couple doit se faire dans l'exclusivité.
Chez certains jeunes, oui. Par contre, moi, dans ma clientèle, chez les, mettons, moi, je travaille seulement avec des adultes, là, quand on parle de, mettons, 20 ans et plus.
Ouais.
Donc, la génération de la vingtaine et de la trentaine me parle beaucoup de, justement, de couples ouverts. Il y en a qui le vivent déjà. Il y en a qui veulent le vivre, qui y pensent, qui y songent. Ils sont beaucoup dans le discours, on peut pas, toute sa vie, passer toute sa vie avec un seul et
même
partenaire sexuel. Non. Mais c'est vrai, par contre, qu'il y a quand même une certaine catégorie de jeunes qui croient et qui souhaitent se marier, avoir des enfants, vivre une relation à très long terme avec le ou la même partenaire. Je suis pas en train de dire que ça n'existe pas. Ce que je voulais souligner, c'est que dans mon bureau, mettons, dans les 10 dernières années,
ça
j'ai
change.
Vu arriver beaucoup plus de réflexions sur le couple ouvert comparativement à il y a 20 ans, par exemple.
Et donc, c'est quelque chose qui va être omniprésent dans la prochaine décennie.
Je pense que oui.
Les expériences sexuelles aussi, l'identité sexuelle qui change. Mm. J'ai l'impression que ton bureau va être très occupé, moi, pour les 10 prochaines années.
Il l'est déjà, mais il y a plein d'autres sexologues là, qui veulent travailler puis qui veulent aider la population. On est très ouverts à toutes ces questions-là.
Il y a sûrement, là, on parle du couple, mais il y a sûrement beaucoup de gens célibataires qui nous écoutent, qui ont envie de se faire dire comment on peut facilement rencontrer une autre personne? Quel est le chemin que je devrais faire pour rencontrer l'amour cette année? Puis je lisais dans tes documents de recherche que souvent les gens célibataires, parce qu'il y en a aussi beaucoup dans ton bureau, font la nomenclature de ce qu'ils recherchent.
Oui, ça c'est la fameuse liste là de je veux telle grandeur, telle couleur de cheveux, telle carrière,
sens de
telle recherche,
puis,
qui aime le bon vin, puis qui a un passé réglé, tout ça. Mais moi, ce que je les amène à faire en thérapie, c'est aussi se questionner sur qu'est-ce que toi t'as à offrir. Fais la liste de ce que toi tu peux offrir à un partenaire potentiel. Qu'est-ce que cette personne-là que tu convoites pourrait gagner à t'avoir dans sa vie? C'est quoi la plus-value que toi tu peux amener dans la vie de quelqu'un? Ouais. Donc j'appelle ça l'offre et la demande. La demande, on est bon là-dedans, de faire la liste de ce qu'on demande aux autres, tu sais, comment les autres peuvent nous aider à avoir une meilleure vie.
Mais ce que nous on a
à qu'est-ce offrir? Que nous on a à offrir qui ferait en sorte qu'un partenaire potentiel pourrait se sentir chanceux d'être en notre présence.
D'ailleurs, sur un site de rencontre, c'est plus charmant de lire quelqu'un qui raconte ce que
c'est différent en tout cas. Je pense que la personne qui ferait ça sur un site de rencontre ressortirait du lot parce que c'est pas le premier réflexe qu'on a. Donc c'est intéressant de faire cette réflexion là et quand je l'ai proposé à des clients, la plupart m'ont dit hey, sais-tu que c'est pas si facile que ça? Tu sais qu'est-ce que j'ai à offrir? Puis là, il faut qu'ils y pensent.
Mais tu sais quoi, ça peut être bon pour n'importe quel humain en fait.
Tout à fait.
Qu'on soit à la recherche de l'amour ou pas.
C'est un peu comme quand on voit une entrevue, je viens d'avoir un flash, une entrevue d'emploi. Tu sais, il faut être capable de dire à l'employeur voici ce que moi je peux vous offrir, tu sais, ce que je peux amener à votre entreprise. C'est pas juste quel salaire vous pouvez me donner, puis quelles conditions de travail vous pouvez me donner. C'est aussi être capable de se vendre. Puis ça, les gens le font parfois un petit peu moins, puis je pense que ça peut être une bonne façon. Et si ça ne marche pas pour la rencontre comme telle, mettons sur un site ou une application, de se vendre comme ça, bien, ça vous amènera à tout le moins à mieux vous connaître. Parce que quand on réfléchit à ce qu'on a à offrir, ça veut dire qu'on a fait une réflexion sur quelles sont mes qualités, quelles sont mes limites aussi, quelles sont les apports ou les attributs que je peux amener à quelqu'un d'autre.
Bon, José, il nous reste une petite minute parce que je veux absolument qu'on le donne ce conseil-là parce que il peut être marquant dans notre façon de voir l'année. On est assez friands là, des to-do lists. Là.
Tu l'as aimé celle-là. Hein?
Ben, c'est parce que moi, je suis pas une fille de listes, mais j'entends ça. Tout le monde fait des listes de choses à faire, que ce soit pour notre bien-être à nous, mais aussi de choses à faire pour le bien-être de toute la famille, de tout le monde. Et toi, tu l'as transformé un peu cette to-do list-là.
En fait, oui. Ben c'est pas moi, c'est un couple avec qui j'ai travaillé il y a peut-être une dizaine d'années, puis à chaque fois que j'en parle à la radio ou ailleurs, je me dis s'ils m'entendent, ils vont se reconnaître, puis vu que je peux pas les nommer, je les cite pas directement, mais j'ai eu un couple qui m'a parlé de la to-do list, mais qu'on écrit T-O-U-T D-O-U-X. Donc, tout doux comme tout doucement, tout en douceur. Donc, ça se dit pareil, tout doux, liste, mais c'est pour faire en sorte qu'on s'attarde.
Il n'y a rien d'agressant, c'est pas imposé.
C'est très doux, mais ça veut dire c'est pas juste faire l'épicerie, payer les factures, ramasse tes bas, puis va chercher du lait. C'est j'ai envie de me rapprocher de toi, on va passer du temps ensemble, on se fait un câlin avant de partir au travail. C'est des choses toutes douces. Donc, la tout doux, liste, T-O-U-T-D-O-U-X, et mettez ça sur votre frigo,
offrez
à côté
des
de la to-do list de tâches pour vous offrir des douceurs en cette nouvelle année.
Merci beaucoup, José, puis un bon 25 ans de carrière en 2020.
Merci, toujours un plaisir.